Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. N'aie pas peur de répondre. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai remarqué que c'est moi qui faisais les trucs, c'est moi qui faisais les réponses. Vous êtes quand même 10, alors vous pouvez quand même répondre. Vous avez remarqué que c'est moi qui fais les réponses. Et avec votre esprit, c'est moi qui le fais, parce que comme vous ne le faites pas, il faut que je le fasse. Gloria, c'est pareil. Normalement, vous devez dire la Gloria. Mais peut-être que vous ne connaissez pas votre Gloria. Soyez, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et comme vous ne le faites pas, vous avez marqué. Du coup, c'est moi qui le fais à votre place. Je vous propose d'avoir votre part, hein, pour ne pas rester la bouche comme ça. Fermée. Moment où les fidèles répondent, parce qu'ils représentent, ils représentent la foi méritoire de l'Église. Donc si la foi méritoire de l'Église se tait dans la liturgie, vous stérilisez la messe. Alors vous me direz, je ne connais pas moi ces prières-là, Gloria, je ne sais pas ce que c'est, Credo, je n'ai pas entendu parler. Alors, dans ce cas-là, comme pénitence, vous apprendrez par cœur toutes ces prières essentielles de la messe. Et vous aurez le courage d'ouvrir vos bouches, comme dit le psaume 80, ouvre ta bouche, et moi je l'offrirai de la fleur du froment. Non, mais je reconnais que c'était. On n'a pas l'habitude de venir chez moi. Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien.
Qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien.
Qui regarde vers lui resplendient, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge.
Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien.
Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.
qui cherche le Seigneur, ne manque aucun bien.
Alléluia.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Je m'appuie sur ta parole, alléluia. Seigneur, je tends les mains, alléluia. Je tends les mains vers tes volontés, alléluia. Oui, en vérité, tes volontés, je le sais. Alléluia. Dans une maison, sa mère, ses frères arrivent. Restant en dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de Jésus. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, et ils te cherchent. Mais Jésus leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Il répande son parfum, son huile vivifiante. Comme la verbe et la rosée autour et tout, sur toute l'orbe de la terre. Qu'il pénètre en bénédiction toutes ces assoiffées de perfection sainte, céleste, pure. Qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux dès cette terre les portes de la Jérusalem d'en haut, libérer toute entrave. Immaculisé de toute faute, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Louange à toi, alléluia.
Louange à toi,
alléluia.
Louange à toi,
alléluia.
qu'on s'habitue, le 22, c'est Sainte Marie-Madeleine, le 23, c'est Sainte Brigitte, patronne de l'Europe. Tout le monde ici connaît Sainte Brigitte parce que tout le monde a dit les oraisons de Sainte Brigitte. C'est formidable les oraisons de Sainte Brigitte. C'est merveilleux les oraisons de Sainte Brigitte. Quand vous allez à Rome, à Saint-Paul, hors les murs, là où il y a les tableaux des 269 papes, tous les médaillons, c'est dans cette basilique extraordinaire qu'il y a un crucifix là sur l'aile gauche. La basilique est un grand crucifix, comme ça, avec Jésus crucifié dessus. Et donc elle priait là un jour à Rome. Et comme Jésus était crucifié, il regardait vers son père, par là, et elle était à droite. Alors, au bout d'un certain temps qu'elle priait, elle dit, Seigneur Jésus, tu pourrais quand même me regarder. Alors du coup, Jésus a quitté le regard du père, il est devenu vivant sur la croix, n'est-ce pas? Et puis, il s'est tourné vers elle. Et le crucifix restait comme ça. Vous pouvez toujours aller voir. Ça fait d'ailleurs bizarre quand même. Ça fait... Et là, il lui a dicté les oraisons de Sainte Brigitte. En disant, voilà, je... Il dit, mais elle lui pose la question, tu as reçu combien de plaies dans ta passion? C'est fou. Alors il dit, j'ai reçu dans ma passion 5480 plaies. Ça veut dire 30 plaies par centimètre. 30 plaies ouvertes, hein. Par centimètre de hauteur. Énorme. Et en plus, c'était pas n'importe quelle plaie, vous savez, parce que quand les accrochages là, qu'on faisait avec la flagellation, par exemple, c'était des petits, c'était pas des petits, c'était 7. Et à la fin de ces lanières, il y avait des bouts de plomb, bien sûr, et puis qui ramollissaient la peau. Et puis au bout, c'était des lamelles comme ça, épaisse comme ça, et incurvé. Donc ça rentrait à peu près à un tout petit peu moins d'un centimètre à l'intérieur, et ça arrachait la peau sur environ 2 cm. 5480 plaies. Le prophète Isaïe, quand il avait vu ça, 500 ans avant, il avait vu en vision la flagellation de Jésus. Il a vu la crucifixion de Jésus. Et il a vécu intérieurement le prophète Isaïe 500 ans avant. Du Messie qui allait être crucifié. Il a dit, même, c'était impossible de savoir si c'était un être humain. Impossible de savoir si c'était un être humain, tellement il était déchiqueté. Ça allait jusqu'à l'os, et de partout. Le film de Mel Gibson, c'est une petite blague, un petit guili-guili à côté de ce que Jésus a vécu. Une petite plaisanterie. Faut que ça passe. À chaque fois que nous commettons un péché, c'est pas rien. Hein. Le péché n'est pas rien du tout. Et c'est pour ça que nous avons tous dit, à celui qui dira, celui qui voudra bien saluer chacune de mes plaies. Voilà, ben, il dira les 15 oraisons et il a dicté lui-même les 15 prières à Sainte Brigitte, 15 prières que vous ne dites pas chaque jour comme ça, pendant 365 jours. Et 365 multiplié par 15, ça fait 5480. Alléluia. C'est pour ça que tous ici, vous avez évidemment dit les horizons de Saint-Brigitte pendant un an. Sinon, on n'est pas catholique. Évidemment, on peut préférer s'occuper de ces oiseaux. Ces petites souffrances du passé. Mais il vaut mieux s'occuper de Dieu dans la croix de Jésus. Et Sainte-Brigitte, c'est ça. Et quand le pape a voulu donner un patron à l'Europe, le patronage, c'est à Sainte-Brigitte qui est choisie parce que de l'intérieur, vous voyez, Brigitte vivait la passion du Christ. Et un catholique, un chrétien, je veux dire, un baptisé, c'est quelqu'un qui donne l'autorisation à Jésus de venir à l'intérieur de lui, de prendre toute la place comme un parfum se répand dans une pièce. Et c'est Jésus crucifié dans toutes ses plaies qui vit à l'intérieur de nous et qui remplace ce que nous avons l'impression de vivre. C'est plus nous qui vivons, c'est Jésus crucifié qui vit en nous. C'est Jésus crucifié qui vit en nous. C'est vrai. Et alors tous ceux qui disent, c'est... Et Jésus dit, tous ceux qui vont dire, c'est aussi la raison de s'embrouiller pendant un an, ça. C'est vrai, ils iront, quand ils seront au ciel, ils seront dans les demeures supérieures, séraphiques, éternellement. C'est les seuls qui pourront glorifier Dieu en honorant Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, dans le sommet de la glorification séraphique. Moi, c'est pour ça que je dis ça, c'est à cause de cette promesse-là. Parce qu'être au ciel, dans une demeure, vous savez, chérubique seulement, ça ne me plaît pas. Moi, je m'attends tout de suite. Alors, c'est pas difficile. J'ai 15 raisons, ça prend un quart d'heure par jour, pendant un an. Et en plus, c'est un avantage énorme aussi, je vous signale aussi. C'est difficile de faire oraison, hein. L'oraison carmélitaine, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est fatigant. Qu'est-ce que c'est pas drôle. Il faut pas que je mette mes pensées, mes mouvements de moi en moi, par rapport à moi en moi. Oh, comme c'est dur de faire ça. Pendant 22 minutes par jour. Oraison carmélitaine, contemplative, transformante. Oh non, je n'aime pas ça. Aussitôt après la communion, vite, on se tire, alors qu'on devrait rester une demi-heure de raison, moi, je suis là. Aucun autre mouvement que le mouvement silencieux, eucharistique, sublime et délicieux. L'amour éternel du Verbe de Dieu, transformant en responsabilité dans le sein du Père, pour produire le paraclet dans l'accomplissement des temps de la fin. Et je m'efface merveilleusement pendant 22 minutes là. Oh non, ça non, pas ça, c'est dur, c'est réservé aux carmélites. Moi, je ne suis pas une carmélite, j'ai un autre état de vie, et puis c'est fatigant. La vie surnaturelle, divine, sanctifiante, théologale, transformante, où Dieu travaille à l'intérieur de moi, oh, c'est un travail ça. Et puis il faut tous les jours, et s'il y a le téléphone qui sonne, et s'il y a le petit chien qui aboie et qui réclame de l'eau. Alors quand même, moi j'adore ça. Et etc. Tout ce que, mais bon, c'est vrai, c'est difficile. C'est pas difficile en fait, c'est très facile. Alors du coup, c'est dire, voilà. Dites, ces oraisons de Saint-Brigitte, ça dure aussi pareil, 20-25 minutes. C'est un truc, notre Père, José et Marie, première oraison, puis ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Bon. Vous le dites tranquillement, ça. Et le Seigneur a promis à Sainte-Brigitte que tout tous ceux qui diraient jusqu'à la fin du monde comme ça, une fois par jour. Il serait admis à la fin de l'année, aux mêmes grâces dans le courant de l'année, d'accord, de guérison, de libération, de purification, de la sensibilité, de la mémoire, pour atteindre la vie illuminative. Hein? C'est chouette, non? C'est beau, ça, ça. Quelqu'un dit, ah, ouais, moi, ça va, une dévotion, c'est bon. Comme ça, atteint un moment, là, c'est pas suffisant. C'est la frontière entre la quatrième et la cinquième. C'est déjà pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui mettent 40 ans de prière avant d'arriver à la frontière entre la quatrième et la cinquième demeure. J'en connais personnellement. Ici, non, vous avez atteint des sommets bien plus élevés. Évidemment. Je parle pas de vous, je parle des autres. Ah, Notre-Dame du Sucre priait pour nous. On n'est pas arrivé, il y a du travail. Alors, il y a du travail. Et c'est vrai, l'union transformante, c'est beau ça. Alors, c'est vrai que quand on laisse comme ça, c'est les paroles que Jésus a dictées. Et ces paroles que Jésus a dictées, ce sont les siennes. C'est celles, en fait, qui les poussaient du mystère de compassion à l'intérieur de lui, parce que Jésus ne souffre pas seul. Il y a le nouvel Adam, le corps rédempteur, le corps rédemptrice, dans l'au-delà de l'identité d'eux. Et il y a cette prière qui émane. Et c'est les paroles justes. Jésus n'a pas voulu glorifier le Père dans la volonté éternelle du Père. Seul. Il a voulu que ce soit en communion avec c'est Dieu qui desserrait dans l'au-delà de son unité avec la foi, la rédemptrice de la compassion de Marie. Voilà ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous voulez savoir qui est ma mère? Puisqu'elle est dehors, vous êtes autour de moi en cette facile. Il les regarde bien. Savoir qui est ma mère. Elle qui est dehors parce que vous ne l'avez pas accueillie en vous. Vous qui faites partie des prières de l'Église. Elle est dehors. Qui est ma mère, c'est-à-dire Kai en grec. Kai, c'est-à-dire mes frères avec elle. C'est une unité totale. De tous les engendrés éternels de Dieu et de la mère des engendrés éternels de Dieu. Vous voulez savoir qui est ma mère? Qui est? Est. Est. Poc. Est. C'est ceux qui font dans l'indivisibilité la volonté éternelle du Père. Voilà ma mère, ma soeur, mon frère. C'est-à-dire la même chose en fait. Ma soeur, mon frère. C'est ça. C'est beau ça de voir ça. Cette révélation que Jésus fait à l'intérieur de l'Église en disant, ils sont dehors, vous êtes priés de les faire rentrer dedans. C'est ça le mystère de Marie, c'est ça le mystère de l'engendre éternel. Voilà. La signification du prologue de saint Jean. Le Verbe est devenu chair. Et à ceux qui le reçoivent et qui l'accueillent, il donne de devenir engendré de Dieu, le Père. Et c'est pas par un vouloir humain, hein. C'est pas par volonté humaine, hein. C'est pas parce qu'on est parfait, une patience merveilleuse, un sourire agréable. De l'huile dans les rouages en permanence, un esprit de générosité au service, une trapélie, mon Dieu, quelle merveille. Oh, mon Dieu, oh, une loyauté, une chasteté, une virginité, un esprit pour une humilité, des vertus admirables. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, c'est pas par une volonté humaine. C'est pas par vous trouvez ça fatigant peut-être.
Non, c'est le sommeil, mais c'est pas grave.
C'est... Ah oui. Dormi deux heures. Pas par une volonté charnelle.
Je suis désolé.
Non, non, je vous en prie. Allez dormir si vous êtes fatigué.
Non, non, je vais rester.
Ouais, c'est par une volonté charnelle. Non, mais on vous aime. On vous aime, oh là là. On vous aime, vraiment, on vous aime, Pierre. On vous aime trop, quoi, à peu près. Mais c'est pas par une volonté charnelle. On vous aime beaucoup, c'est vrai. On vous admire en plus. On vous suit, on court derrière vous autant qu'on peut. C'est pas en pratiquant les vertus, oui, en coupant le sommeil, une assaise épouvantable que. Non, c'est pas non plus comme ça. C'est pas par une volonté humaine, c'est pas une volonté de sang, c'est pas du tout. C'est parce qu'ils sont engendrés éternels de Dieu, qu'ils accueillent l'engendré éternel agréé de Dieu. Alors, ils ont droit à la plénitude de grâce et de vérité, l'Eucharistie. L'Eucharistie en grec, c'est la gratitude éternelle offerte. Et c'est ça le mystère de Marie. Voilà, c'est l'évangile, oui, commentaire tout simple, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Pour ceux, les grandes théologiennes là, qui ont fait des années de cours de théologie, savent par cœur tout ça, c'est l'interprétation littérale d'exégèse historique et critique du texte que je viens de lire. Il faut approfondir, il ne faut pas rester à l'exégèse littérale. Hein, c'est ce qu'on dit dans vos cours d'exégèse, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Hélène? Hein? Mm-hmm. Un peu plus loin que l'exégèse littérale. Bon. Faut que ça devienne spirituel. Hein? Faut que ça devienne anagogique. Vous vous rappelez du cours? Ça devienne anagogique. Alors, le sang de Jésus, l'eau de Jésus, l'eau et l'Esprit Saint. Voilà, voyez, on va rentrer dans l'interprétation. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse un petit cours d'exégèse, voyez. C'est-à-dire, c'est quoi un cours d'exégèse? C'est pas de la théologie pour les intellectuels, attention. Hein. L'exégèse, c'est la vie, hein, c'est la vie. Si c'est pas de la vie, c'est pas un cours de... C'est plus un enseignement de... Ah, c'est vrai. Il faut que ce soit la vie, et si ça t'apporte rien du tout, ça ne nourrit pas ta vie intérieure surnaturelle, ben, c'est pas la peine. Tu plus bagage, tu vas ailleurs, c'est un très 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 mauvais professeur de théologie, c'est un très très mauvais, un protestant quoi. Alors il faut aller à l'exégèse spirituelle anagogique, ça veut dire qu'il y a un flux et un reflux direct de toi. Un flux et un reflux direct de la félicité de Dieu et de la félicité surnaturelle parfaite de l'Église de la fin. Il y a ici en toi qu'il y a ce flux et ce reflux. Et du coup, c'est avec ça que tu regardes la signification de l'écriture que tu viens de lire. Du passage que tu viens de lire ici, là, l'évangile du jour. Alors, tu le relis avec cette lumière-là. C'est beau parce que c'est vrai, tous ceux qui diront ces oraisons de Sainte Brigitte, ben, ils atteindront les premiers degrés de la perfection de l'union transformante. Vous savez que vous connaissez la doctrine infaillible de l'Église, nous avons des docteurs infaillibles. Nous avons des doctrines infaillibles. C'est qui ? Il y a deux docteurs pour la doctrine infaillible de la prière, de l'union transformante, c'est ça, Saint-Jean de la Croix et Saint-Thérèse d'Avila. C'est là où la doctrine infaillible, catéchisme de Saint-Pétis par exemple, pour ceux qui aiment bien la tradition, l'union transformante. Aujourd'hui, maintenant, il y a un troisième docteur pour ceux qui sont après la tradition. Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, docteur de l'Église. On a trois docteurs de l'Église. N'est-ce pas? Alors, l'union parfaite, les premiers degrés de la perfection. ceux qui vont atteindront les rites de l'interprétation. Ils auront toutes les purifications qui font que ça y est. Ils peuvent, dans la demi-heure qui s'ouvre, dans le temps, être tout de suite en affinité avec les grâces de la cinquième demeure. C'est beau ça. Les premières demeures de la perfection, l'union parfaite, commence à la frontière de la vie illuminative et de la vie du et de la vie unitive parfaite. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la frontière entre la quatrième et la cinquième demeure de l'union transformante. Ah! Oh! Oh, que ça me plaît, ça! Ça y est, je rentre dans l'anagogie, là. Parce que le passage de la quatrième à la cinquième demeure, c'est ce passage qui va nous être montré de manière charismatique aujourd'hui sur l'ouverture du cinquième psaume d'Apocalypse. Ah non, on ne va pas tomber par terre dans le repos du Saint-Esprit avec le Père Timothée. Ça, c'est seulement la manifestation charismatique de ce qui devrait se passer dans votre âme lorsque vous êtes dans le passage de la troisième à la quatrième demeure, ça. Paf. Le passage de la quatrième à la cinquième demeure, c'est quand on devient catholique sur notre vie intérieure. C'est-à-dire que Dieu passe et transforme la larve en colombe, en papillon, une larve et son cocon. Fameux raccourci de Sainte-Thérèse. Attention, c'est pas le raccourci que. Moi, c'est facile, je me mets dans l'escalier, pouf, ça y est. C'est pas si. Elle essaie d'expliquer comme ça, mais c'est une opération divine à l'intérieur de vous. Et cette. Comme le raccourci se fait comme ça, ce passage de la cinquième heure, vous ne pouvez pas ne pas, c'est strictement impossible, vous ne pouvez pas ne pas voir que Dieu est passé et vous avez passé à la cinquième heure. C'est impossible, personne ne pourrait passer à la cinquième heure sans savoir. Non, je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu. Si, si, tu sais, si tu es allé à la cinquième heure, tu le sais. Tu le sais. Tu sais quand ça s'est arrivé, quand est-ce que Dieu est passé, quand est-ce que tu t'es fait passer à la cinquième heure. Personne ne passe à la cinquième demeure sans savoir exactement comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, à quelle horizon ça s'est passé et de laquelle manière ça s'est passé. Doctrine infaillible de l'Église. Hein. Saint Jean de la Croix l'affirme. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Et Saint Thérèse d'Avila aussi. C'est vachement sympa hein, de connaître les docteurs infaillibles de l'Église. Ah, on est sûr, pas trompé là. Parce que c'est une vérité qui vient directement du ciel. Pas calviniste, c'est pas le libre examen, c'est pas Freud. Vous savez, je veux pas vous traumatiser. Je vous promets que je vous traumatiserai pas. Moi, je vous promets que je ferai tout pour pas vous traumatiser.
Le diapé.
Il vaut mieux vous renfliquer. Quand on fait oraison, on pose les pieds comme ça par terre. Ça va, j'ai pas besoin de continuer. Je fais raison, comme l'explique Saint Benoît. Je suis prêt à partir. C'est l'anagogique. Hein? Je suis prêt à partir. Donc j'ai déjà les deux pieds prêts à bondir. C'est pour ça que dans une église, vous ne verrez jamais l'évêque, ou même les prêtres, hein? Même les pires. Hein? Voilà. Cœur, quoi. Jamais. Impossible. Même un enfant de cœur. monastères du monde entier. Vous ne verrez jamais, jamais. Jamais, c'est impossible. Voilà. C'est ça comme ça. Pourquoi ? Parce que on est prêt à bondir dans l'anagogique. L'anagogique, vous comprenez, c'est un mot qui a l'air compliqué comme ça, intraduisible en anglais. C'est très intuitif, c'est anagogique. Anagogical. Mais même les Anglais ne savent pas ce que ça veut dire, donc voilà, c'est pas plus français. C'est le même mot. C'est quand vous passez à la cinquième demeure. La cinquième demeure, c'est très extraordinaire, vous savez, la cinquième demeure. Et on est un petit peu là, un petit peu ces jours-ci, là, pendant une semaine, pour ça, hein, pour rentrer dans l'anagogique, pour rentrer dans la cinquième demeure. C'est facile d'entrer dans la cinquième demeure. Il n'y a que celui qui ne veut pas qui n'y rentre pas. Ceux qui ne sont pas rentrés avant l'avertissement, là, qui va avoir lieu dans quelques semaines, hein, hein. C'est leur faute, hein. C'est l'enfance de l'art, hein. C'est vraiment très facile. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas y aller, qui préfèrent le théâtre, qui préfèrent aller. Qui ne trouveront pas, ça c'est certain. Onzo, vous regardez les King Kong. Excusez-moi, je vous demande pardon si je vous ai fait de la peine. Mais voilà, donc, tout ça pour dire qu'on rentrerait. On rentre dans la cinquième demeure. Pourquoi ? Parce que la cinquième demeure fait que on est une vie catholique dans les quatre premières. C'est extraordinaire dans la vie catholique. Il y a une libération. Il y a un océan pacifique. Il y a une paix céleste. Il y a un repos, il y a une disponibilité spirituelle, intérieure, surnaturelle. Il y a une liberté du vol des. La saveur délicieuse et à peine perceptible, la transformation des dons du Saint-Esprit. C'est beau, alors on arrive à la quatrième demeure, mais Saint-Thérèse de l'Avila, Saint-Jean de la Croix, Saint-Thérèse, je dis, on est encore à un verre. Ah, bien sûr, la quatrième demeure, le verre c'est de la soie, vous voyez, c'est un peu blanc quand même. C'est assez doux, quoi. Mais c'est encore un verre. Dieu passe, pose son doigt de l'intérieur du verre, absorbe la soie immaculée, et tu deviens une colombe. La transformation est radicale. Transformation de ton âme, la manière totalement différente de ce jour-là de vivre l'union avec Jésus. Avec l'union hypostatique déchirée dans la transverbération. Ah, c'est ça. Alors à ce moment-là, comme dit le père Garrigou Lagrange, qui n'est pas docteur de l'Église, mais un jour, peut-être, il sera proclamé docteur de l'Église, le père Garrigou. C'est François qui est passé devant. On attendra 20 ans. Non. Je vous assure que c'est pas. C'est extraordinaire, il dit ça. Il dit dans les autres religions, sous l'effet de la grâce de la messe dite tous les jours un million de fois, Jésus, peint de vie, descend dans les âmes des autres religions. Et tous ceux qui ont l'âme largement ouverte à la grâce de la communion invisible reçoivent la communion eucharistique substantiellement. De même pour l'absolution. Oh, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, ça va aller chez moi. L'excellent de la règle, vous voyez, c'est pas parce que. Non, pas du tout, c'est parce que comme ça on va plus vite. Prenez. Et le. C'est ça la véritable libération, c'est qu'on n'a plus jamais aucun regard sur son passé. On ne se regarde plus jamais sur son passé, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ne vit pas, ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas. C'est extraordinaire la liberté spirituelle du catholique. Donc le père Carrico-Lagrange, je reprends, il dit, quand je reçois l'absolution, et que je fais la pénitence, c'est une âme qui a dépassé la cinquième demeure. Cette absolution surabonde d'elle et descend sacramentellement, c'est-à-dire présence réelle, substantielle, dans toutes les âmes de toute la terre, de toutes les autres religions. Un incendie commence. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va éteindre l'incendie. Hein? On est là pour ça, pour faire un petit peu de catéchisme. Hein?
Magnifique.
Oh, il a bien fallu que je reçoive ce catéchisme. Alors je me prends ça aussi. Non, ouais, c'est ça l'Église. Hein? Donc c'est ça le corps mystique de Jésus, le cœur brûlant d'amour de Jésus. La mystère de compassion de Marie. Marie est inséparable des engendrés éternels de Dieu. Et oui, donc voilà celui qui a et au-delà de l'union parfaite, c'est-à-dire de la cinquième, sixième et septième demeure, ceux qui sont dans les demeures de l'union parfaite, la voie illuminative et unitive. Bon, eh bien, ils reçoivent l'absolution. Ça va, par exemple? Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, automatiquement, l'absolution. Il faut la pénitence, il faut 22 minutes d'oraison après l'absolution, par exemple. Mais cette absolution, il la garde, il y a toujours la présence réelle de l'absolution. Elle se communique et elle descend dans les âmes qui ont le cas qui saigne parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas à aimer Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à aimer leur enfant. Pardon, ils sont immédiatement absous d'une absolution sacramentelle catholique. Ce que vous avez reçu gratuitement, vous le donnez gratuitement. C'est ça que ça veut dire, le mot catholique. Hein? C'est hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas. Chrétiens, disciples de Jésus, en Marie, transformés en colombes, dans les demeures de l'union illuminative. Alors la rédemption et le salut du monde ne pénètrent pas les âmes de bonne volonté de toute la terre. Et c'est absolument exact. C'est évident. Mais dès qu'ils sont dehors, parce qu'on se connaît bien avec Pierre au Brice à Paul, on se connaît bien. Et c'est vrai que Père Patrick, avec lui, il fait l'effet d'un soporifique.
Oui, bon.
Il n'y a pas besoin de médicaments avec moi.
Oh. Non, j'entends, mais je m'endors. Voilà.
Oui, non, mais c'est, on est bien d'accord là-dessus. Vous n'êtes pas le seul. Si ça peut consoler, vous n'êtes pas seul.
Oh, j'ai 2 heures de sommeil. Alors.
Et quand vous faites oraison, c'est-à-dire que vous utilisez le sacrement du baptême, quand vous faites oraison carmélitaine sous le souffle et l'esprit d'Élie, le prophète, sous le souffle de l'Esprit Saint dans la 5e, 6e, 7e demeure, votre baptême se communique. La justification se communique à toutes les âmes de bonne volonté. Parce que vous les aimez, vous n'êtes pas du tout unis à votre âme. Vous êtes la mère et l'indivisible unité des engendrés de Dieu. Et la surabondance de votre raison transforme l'âme de ceux qui sont justifiés par le baptême invisible de l'Église catholique dans l'humanité d'aujourd'hui. Hors de l'Église, point de salut, c'est par l'oraison qu'on baptise invisiblement, surnaturellement, de manière définitive et immortelle, toutes les âmes largement ouvertes à la présence de la grâce, et en particulier les 700 milliards d'enfants qui ont été avortés depuis 50 ans. 700 milliards, 100 fois plus que de survivants. 700 milliards. Pour un survivant que nous sommes, il y en a 100. Même âge, conçu aux mêmes dates. 700 milliards. Et alors voilà, donc, quand je suis dans la vie anachronique, quand je suis dans la vie chrétienne, transformant. C'est ça, vous voyez, c'est très, c'est un grand jour aujourd'hui. Sainte-Brigitte, c'est pas rien, c'est le pape a dit, c'est la patronne de l'Europe. La couronne de Marie, hein. L'Europe. Et la patronne, c'est Sainte-Brigitte. Il faut passer dans l'au-delà des demeures, de la purification, du commençant, quoi. Je veux dire, voilà, si vous vous arrêtez pendant une demi-heure pour prier, pour laisser la politesse de l'Esprit-Saint envahir toute votre vie intérieure, pour atteindre une disponibilité surnaturelle délicieuse et parfaite dans les dons du Saint-Esprit, et vous-même pénétrez l'intérieur surnaturel, vous les voyez, les mystères de Dieu, ce n'est que la 4e demeure. Et ça dure une demi-heure sans s'arrêter, hein. Ce n'est que la 4e demeure, ça. Vous êtes suspendu comme ça dans la 4e demeure et c'est l'Esprit Saint. Il n'y a aucune mauvaise idée, aucun mouvement qui se fait. Aucun tic. Aucun. Mais il y a plein de gens qui font oraison. La tête, on voit la tête. C'est excellent et ça vient de la grâce sanctifiante. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. La volonté éternelle du Père, c'est de passer dans l'union parfaite. De l'union hypostatique désirée, la transverbération et d'être aspiré. Alors, douce colombe, viens, ma colombe, viens. Car voici qu'au sommet des monts apparaît le cerf blessé, savourant la brise fraîche. On devient paraclet et instrument du paraclet pour le Père. Et pour l'union hypostatique de Jésus dans la transverbération, dans l'au-delà de l'unité. L'union hypostatique de Jésus de la compassion éternelle de Marie. Et là, on est un instrument conscient. Et il n'y a rien qui vienne de nous séparer des autres. C'est de la nature humaine tout entière qui est absolue, qui vit ça. la nature humaine toute entière. Ça fait beaucoup la nature humaine entière. Puis attends, puis on le voit, puis on le sait, puis on le comprend. Et on en est conscient. Ah, cette métamorphose-là est extraordinaire. Et le jour où on passe à cette métamorphose-là, on sait qu'on est devenu catholique. Pas avant. Parce que les autres états de grâce sont communs à tous ceux qui sont de bonne volonté, même dans les autres religions. Il y aura des surprises, vous savez. De grosses surprises. Au jour de l'ouverture du cinquième saut d'Apocalypse. Si chacun veut faire sa volonté. Et Jésus dit, non, c'est celui qui fait la volonté éternelle du Père. Voilà, la mère, voilà. L'engendré, voilà, l'engendré éternel du Père, le frère. Et Jésus ne fait pas sa volonté. Jésus n'a jamais fait sa propre volonté. Vous verrez ça pour les raisons de Saint-Posite, Jésus. Justement. Pourtant, la volonté de Dieu le Fils, c'est une super volonté. Hein. Vous n'allez pas me dire que la volonté de Dieu le Fils, c'est nul. Mais il ne la fait pas. Et la volonté du Christ ressuscité, il ne fait pas la volonté du Christ ressuscité. Il ne la fait pas. Il ne la garde même pas. Ça ne l'intéresse pas. Et doit être anéanti, kénose, moyé. Seulement la volonté éternelle du Père. Et la volonté éternelle du Père, c'est que le Dieu, dans son déploiement éternel de lumière et d'amour resplendissant, accepte de disparaître. Accepte de disparaître. D'être effacé. D'être donné. La volonté éternelle de Dieu, son fils, c'est que le Verbe de Dieu, c'est que c'est l'épousaille, son épousaille, sa bien-aimée éternelle, disparaisse au mystère de la croix. C'est l'unique volonté éternelle du Père. Pour le Verbe incarné, pour le Verbe et pour l'incarnation du Verbe. Et Jésus ne vit que cette aspiration à la croix. Vous verrez ça dans les oraisons de Saint-Brigitte. Pourtant, moi, je ne veux pas souffrir. Hein. Oh non, 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 j'ai déjà souffert dans ma vie. On m'a fait souffrir. J'ai eu beaucoup de souffrances dans mon enfance. Hein, beaucoup. Ma généalogie. Hein. Et mes parents, voilà. Que de souffrance dans ma vie. Alors, souffrir, j'ai déjà donné. Hein. D'accord.
Oui, je touche pas les pieds.
C'est ça. Oui. Regardez. Oui, on se fait piéger, hein. Vous connaissez ce que dit saint Thomas d'Aquin, docteur principal de l'Église. L'absence de croix dans une vie est un signe certain de réprobation éternelle. Je veux dire par là, quelqu'un qui n'a jamais aimé enfin une croix, enfin une souffrance pour qu'elle se transforme en croix. Celui qui ne l'a jamais fait, c'est un signe certain de réprobation éternelle. Saint Thomas d'Aquin, c'est quand même le docteur principal de l'Église. Si on doit regarder qu'un, c'est lui. Hein. Ah, c'est la théologie. Si vous voulez faire la théologie, vous prenez la somme de Saint Thomas d'Aquin, vous laissez toute la somme. C'est génial. Complètement génial, ça, Thomas d'Aquin. perdez pas une seule seconde quand vous faisiez cette œuvre, du début jusqu'à la fin, attention. La somme, il a fait la somme pour les débutants. Vous n'avez pas besoin de courir les universités de théologie protestante. En Bretagne, en plus. Et ça, c'est Sainte Brigitte. Vous voyez, Sainte Brigitte, Jésus révèle ça. Et le pape dit, voilà, il utilise son pouvoir des clés. Et il dit, voilà, ça, c'est la solennité du patronage de l'Europe. Et en plus, il faut dire une chose, c'est quand on est dans la cinquième et demeure de l'union parfaite, hein, jusqu'au mariage spirituel, c'est très, très, très délicieux. Ce sont des véritables délices. Ce que dit Jésus à Saint-Gertrude, hein, à propos de Saint-Jean, c'est les délices de Jésus crucifié. Ceux qui vivent ça, Marie et Jean, dans l'Eucharistie, ils voient une délice. Et c'est délicieux. Délicieux. C'est éternellement délicieux dès cette terre. Hein. Mais Saint de la Croix est un mystère. C'est pas un mystère, c'est une expérience surnaturelle, divine, éternelle, de sponsalité délicieuse. Délicieuse. Si vous y avez goûté ne serait-ce que 3 secondes dans une vie, ça suffit à effacer des anciennes souffrances de milliards d'êtres humains. Il faut aspirer à la vie catholique. Il faut adhérer, oui, il faut dire oui à la grâce sanctifiante, il faut dire oui à l'union parfaite, il faut renoncer à notre manière de voir notre mission sur la terre, ce n'est pas nous. Il faut rentrer dans le mystère au fond, oui, de cette union hypostatique désirée, ce silence du Verbe de Dieu, dans le vertu du corps cadavérique de Jésus. Le mystère du tombeau. Hier, Marie est descendue. Elle a vu un ange à sa droite et un ange à la tête, aux pieds. Et un aux pieds, à la tête. Oh, le mystère du tombeau. Oh. Ce que nous enseigne l'esprit du monde. Ça, c'est sûr. L'esprit du monde nous apprend à croire. Oh, vous savez, vous avez des blessures. Là, couper des liens. Surveillez bien votre nourriture. Je vous passe la litanie, quoi. C'est sûr. Et vous voyez, nous sommes ici, là, pendant ces quelques jours, pour ça. C'est notre objectif, vous voyez, ça fait un petit peu comme une petite introduction. J'espère que ça ne vous fait pas peur. Mais c'est bon, il n'y a pas avoir peur. Pourquoi avoir peur, hein, de la paix, hein? On n'a pas avoir peur d'être en paix. D'être dans l'amour, quoi. Et puis d'être là où nous avons dit oui, depuis notre conception, depuis le principe. De retrouver notre oui et d'atteindre dans le livre de la vie notre oui éternel, inscrit dans le livre de la vie, et de faire le lien avec ça, et de passer de l'un à l'autre dans un mélange délicieux d'une liqueur parfaite. Qui irrigue le sang, écarte le mauvais sur l'aile gauche du temple pour qu'il tombe dans le vide de l'Aquilon, comme dit Saint-Yves de Garde. Une fois qu'on est dans la cinquième, sixième ou septième demeure, alors on comprend la révélation de l'Apocalypse du pape Benoît XVI. On ne peut pas le comprendre avant. Il a déclaré docteur de l'Église. Quelques jours après, il a donné sa démission. Alors maintenant, j'ai donné mon Apocalypse. Voilà, 888 ans après sa mort, elle est docteur de l'Église. Maintenant, je prie ceux qui comprennent, qu'ils essaient de comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, qu'ils fassent, qu'ils tricotent leurs histoires de Nostradamus. C'est l'église du cinquième saut de l'Apocalypse est arrivée. Ça y est, c'est l'heure. Bon. Je vous épargnerai la date exacte. Et c'est quoi cette cinquième demeure? C'est quoi ce cinquième saut de l'Apocalypse? C'est quoi l'état dans lequel Dieu nous attend? C'est quoi le toit de Dieu? Là, il m'attend quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la volonté éternelle du Père? Qu'est-ce que dit Jésus aujourd'hui à ceux qui sont autour de lui, tandis que Marie est encore dehors de mon église, de mon temple, et de mon Saint des Saints, de mon monde intérieur? Avec qui s'engendrait l'éternel du Père avec elle? C'est quoi? C'est où? C'est comment? Est-ce que c'est ta théologie intellectuelle?
Non!
Est-ce que c'est de la saine doctrine? Que nous ignorons jusqu'à maintenant.
Non!
Est-ce que c'est possible de savoir?
Oui.
Facilement.
Oui.
Immédiatement.
Oui.
En quelques minutes. Ils ont des œuvres mystiques à eux. Ça tourne encore autour d'eux. Charismatico, mystico, dingo. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est fou. Cinq ans après, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, ça continue. Voilà. Un tout petit peu de bonne volonté, un tout petit peu de transformation surnaturelle, un tout petit peu de désir, beaucoup d'amour, une disponibilité surnaturelle parfaite. Je pense qu'en une semaine, la chose est réalisée. En une semaine. Si on s'y mets, si on se donne à fond, c'est le travail d'une semaine. Semaine, c'est le temps du travail. Dieu crée en une semaine, au septième jour. Donc ce n'est pas du tout. C'est pas du tout une chose réservée à quelque chose. C'est donné à tout le monde. Et d'ailleurs, le cinquième psaume de l'Apocalypse, c'est ça. Hein, c'est la chose sera montrée à tout le monde. 7 milliards d'êtres humains en même temps. Hein, pendant une demi-heure. Il va faire un silence d'environ une demi-heure. Il n'y a pas un être humain qui ne va pas voir ce que c'est que la cinquième demeure. Au moins de manière illuminative. Oui, non, illuminative. Au moins de manière charismatique, c'est vrai, d'accord? Tout le monde le verra. Ce sera une demeure, ça vous le savez. Hein? Vous le savez, ça. Pas moi qui vous l'apprends quand même, si. Moi qui vous l'apprends, Brisette?
Pardon?
Ah, non, d'accord, vous étiez ailleurs.
Oui. Non, j'étais là.
Oui.
Non, j'étais là.
C'est moi qui vous l'apprends, ça, que pendant une demi-heure, il va y avoir l'ouverture du... des temps, hein?
Oui.
Ah d'accord, vous savez pas. À un moment donné, il y a le cinquième saut de l'Apocalypse qui s'ouvre. Oui. Et c'est pour nous. C'est pas nos grands-parents, c'est pas notre maman, c'est nous. Okay. Là. On le sait très bien. On n'a pas besoin d'être médium. Hein. C'est pas une question d'être médium. Hein. Oh là là. On sait, puisque la transgression suprême, ça y est, elle est consommée. Donc c'est clair, net et précis. Hein? Et l'ange Gabriel explique au prophète Daniel, voilà, combien il faut. C'est cette génération-là, point à l'année. Pour nous. Le pape s'est mis en prière, il a donné son apocalypse pour que tout le monde s'y mette. Le pape François, il arrive en disant, regardez, moi je vous montre ce qu'il faut faire. Il met dans ses armes quoi? Le fruit du nard. Ah, c'est beau ça. La manière dont Saint Joseph faisait oraison pendant 19 ans, depuis sa conception jusqu'à sa 20e année, jusqu'à l'âge de 19 ans. Il vivait ce qui se passait dans le Saint-Sépulcre de l'Union hypostatique déchirée du futur Messie agneau immolé. Il en vivait, corps, âme, esprit, il en vivait. Il est rentré dans la cinquième demeure et l'union parfaite pendant 19 ans sans s'arrêter. Et jusqu'au mariage spirituel, corps, âme et esprit, jusqu'à ce qu'il puisse être assumé par la paternité agréée de Dieu, comme l'explique saint Vincent de Paul à propos de saint Joseph, et qui devienne le sacrement de la paternité agréée de Dieu dans sa chair, et qu'ainsi assumé, il devienne le principe de l'Immaculée Conception. L'épouse sort de l'époux. Cette grâce. Le nard, vous voyez, c'est sur les armes du pape François. Oui, quand vous mettez des armes, le blason, si vous préférez. Vous avez dit, voilà l'indication que je vous donne. Je ne vais pas vous le dire explicitement, mais c'est pour ceux qui comprennent, c'est ça. Voilà. Donc le nard, c'est quoi? C'est avec ça qu'on fait le parfum qu'on a fêté hier, on a tout expliqué ça, hein, d'accord, le nard, qui se répand sur le pied. Et Jésus, donc, c'est ce qui fait le délice de l'union hypostatique déchirée de Jésus dans son tombeau. Ce qui fait ces délices. Les délices inouïes, quoi. L'exaltation. Inouï de bonheur, de surabondance, de joie, d'allégresse, mais à l'infini, substantiel, transsubstantiel et transactuel, dans l'acte pur des délices même. dans ce saint sépulcre, dans le tombeau. On appelle ça la croix glorieuse. Vous saviez que c'est ça qu'on appelait la croix glorieuse, hein? C'était extraordinaire. Ah, c'est ceux qui font les délices pendant ces 36 heures. Saint-Joseph était l'origine de ces amanas santé, ce sponsor quasiment agréé. Le travail de l'époux, c'est-à-dire première personne de la Très Sainte Trinité, dans l'union hypostatique des surettes, c'est sûr, à travers un épassage. Et quand il était enfant, vous voyez, c'est une dévotion, en fait, historiquement, c'est une dévotion de espagnole. Hein, donc, une dévotion espagnole. Et les Espagnols, ça a dû certainement y avoir une apparition, je ne sais plus où c'est, ça, c'était pas Saragosse, c'était... Bref, on je ne sais plus quel saint c'était. Bon, je m'excuse, j'aurais dû faire l'enquête, mais donc, surtout que le pape met ça sur son blason, donc ce serait bien de faire l'enquête quand même. Que... oui, ce serait bien. On va faire Google, pour savoir, c'est bon ça. On va faire Google pour savoir. Gog et Magog, Google et Mac Google, hein. On va faire Gog et Magog pour savoir. Bon, ça va, donc ça, j'ai rien dit. On continue, donc on est à Google. Et Saint-Joseph, enfant, 4 ans, 5 ans, apparaît et il explique que dans sa main, c'est-à-dire son acte pur, continuel, c'est d'embaumer et de faire les délices de l'union hypostatique déchirée de l'agneau immolé, qui n'est pas encore là. Parce que l'agneau immolé, c'était un petit peu plus tard, hein. N'est-ce pas ? Quarantaine d'années plus tard. Et lui, c'était toute sa vie intérieure, et il avait fait ce choix quelques secondes après sa conception, 9 mois avant sa naissance, dans sa mémoire ATI. Ce qui l'a rendu immédiatement en affinité avec sa sponsorité dans l'Immaculée Conception. Affinité parfaite, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, docteur principal de l'Église. Et voilà, mais comment, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette dévotion espagnole, et c'est tout simplement qu'il est déjà de l'union transformante, il était sanctifié par la grâce naturelle chrétienne de la Jérusalem glorieuse, délicieuse, de la fin des temps, descendant jusqu'à lui, en passant par la blessure du cœur de Jésus et faisant l'absolution universelle de la nature humaine. C'est pour ça que Saint-Vincent de Paul dit à propos de Saint-Joseph, donc il y a eu des millions et des millions de grands saints qui ont manifesté la sainteté du Fils unique de Dieu, mais il n'y en a eu qu'un qui a incarné dans sa chair, son sang, la sainteté de la première personne de la Très Sainte Trinité. Un seul. Comment a-t-il fait? Il a engendré du mystère d'Israël, le mystère de la 5e, 6e et 7e demeure. Merci Saint Jean de la Croix de nous avoir expliqué. Merci au pape François de dire c'est là. Souci. Il y a longtemps que vous êtes engolfé là-dedans, frère François. Et oui, bien sûr. Voilà, le nard. Et le pape, lui, il n'a qu'une seule chose à dire. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa première, que vous avez magnifiquement commenté, dans sa première, pas encyclique, mais sur l'évangélisation, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez faire à la périphérie. Faire aimer le plus possible les pauvres, les gens, tous ceux qui sont à la périphérie. Mais ce qui compte, l'évangélisation, c'est la nostalgie. C'est la memoria dei, qui est le seul objet de l'évangélisation dans les profondeurs. Donc en disant ça, il dit, c'est la 5e demeure. est suivante. Le fruit du nard. Il n'y a pas d'autre évangélisation aujourd'hui jusqu'à l'ouverture du cinquième saut. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qu'a dit le pape François. En résumé, en raccourci. Hein, c'est ça que vous avez commenté dans votre chronique. Donc si vous n'avez pas compris ce que je vous dis, écoutez la chronique. La chronique 89. Il ne suffit pas de le dire, cher frère. Il faut aussi le faire.
Il faut le faire, c'est vrai.
C'est vrai. Pardon.
Non, mais...
C'est moi qui ne le fais pas.
C'est vrai, on est dans une période...
Je ne le fais pas.
Il faut faire des choix dans notre état de vie.
Et je m'excuse, mais on est des cathos bizarres. Hein. On le sait et on ne le fait pas. Son nom rossignol, madame Aka, petits oiseaux. J'ai Satan, moi, mes oiseaux. Je pourrais pas vivre. Est-ce que je me sentirais seul? Qu'est-ce que vous en pensez, sœur Hélène?
À vous faire.
C'est merveilleux, hein?
Oui.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle. Nous n'avons pas été créés par Dieu dans cette génération d'aujourd'hui par hasard. Hein. Vous savez que pourquoi Dieu nous crée et nous met dans cet âge-là plutôt que dans un autre âge? Pourquoi pas à l'époque de Jeanne d'Arc? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été créé, vous, à l'époque, hein? Pourquoi maintenant? Il vous a créé quoi? En 1980? Pourquoi? Alors pourquoi en 1980? Pourquoi? Hop, ça y est. La première cellule vient faire la naissance à ce moment-là, 1980. Pourquoi? Je vous promets que je vais vous expliquer. Théologiquement. Pas la doctrine, la faillite de l'Église, évidemment. C'est pas moi qui vous expliquer. Pas par mon pouvoir de chair, pas par mon pouvoir de sang, pas par mon pouvoir humain, même magnifiquement formé par Karl Rahner. Hein.
Tout ce que j'ai fait, bon.
Non, c'est pas moi, c'est Dieu qui nous enseigne. C'est Dieu qui nous dit la vérité toute entière, sans l'ombre. Sans l'ombre. L'ombre, tu verras. La vérité vivante et toute entière, c'est l'objet de notre foi. C'est le Verbe de Dieu qui, disparaissant, devient l'épousé du Père. Et la responsabilité, cet amour et cette lumière déployée qui vit Dieu lui-même en entier, substantiellement. Ah, et qui permet le parachute de la création de tout être qui doit venir dans ce monde. Et c'est trop bien de savoir ça. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait exister, commencer d'exister en 1980?
53.
Pourquoi, hein?
Ou 53.
Au 53. Ouais. Je suis très honoré de connaître cette révélation. Voilà, apprendre, pas tout, je ne peux jamais amener les choses à soi, mais c'est un autre apprentissage, ça. Mais c'est... De quelle année êtes-vous de naissance, frère Jean-Luc?
50, 31, le dernier jour.
1950.
Oui.
31 décembre.
Oui.
Pourquoi?
Saint-Sylvestre.
Pourquoi le 3? Pourquoi le 31 décembre 1950? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Mais évidemment. D'où vient-elle? De l'union. De votre oui originel inscrit dans le livre de la vie avec la volonté éternelle du Père. Et c'est en fonction de ça qu'il vous fait apparaître à un moment de l'histoire de la création et pas à un autre. Ça veut dire que nous avons été choisis et nous avons dit oui pour vivre l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse dans les quelques semaines qui vont venir devant nous. Nous avons été choisis pour ça. Et c'est délicieux, désormais. C'est délicieux de savoir ça. Qu'on a été choisis parce qu'on a dit oui. C'est une communion des personnes dans la liberté totale de la mémorialité, la liberté substantielle de la puissance spirituelle. Qui nous fait image, ressemblance de Dieu dans la petite goutte de sang qui est l'incarnation du mouvement éternel d'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans la matière vivante qui est la nôtre, dans le oui originel de la création de Dieu, qui apparaît, qui manifeste l'image ressemblance de Dieu que je suis, dans la communion des personnes de ce oui acquiescent avec la volonté éternelle du Père, dans le principe. C'est dans le principe que nous avons tous été créés, avant la fondation du monde. Mais il se manifeste dans l'apparition du Génome pour la première fois. Il n'y apparaîtra qu'une fois. Et nous vivrons notre oui. Et puis, ensuite, il n'y a pas de réincarnation. Ensuite, il y a un jugement. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. C'est dommage, moi j'aurais bien voulu, après ma vie sur la terre, me réincarner dans un petit écureuil. Oui, un petit écureuil. Une tourterelle. Oh, c'est beau les tourterelles. Réincarnation. Oui. Pourquoi pas? Super, réincarnation.
Je peux poser une question?
Vous avez des questions à poser?
Ouais.
Oh, ça c'est beau, ça, 1953, allez-y.
Certains pensent de la transmutation des âmes.
Non.
Qu'est-ce qu'il faut vous poser?
Je me disais bien que vous aviez ce genre de questions.
C'est pas idiot.
Ça se voit sur votre visage que vous avez ce genre de questions, la transmutation des âmes.
J'ai entendu parler de ça.
Ah oui, vous avez entendu. C'est amusant, hein, la transmutation des âmes.
Ben, j'en sais rien si c'est amusant.
Hein?
J'en sais rien si c'est amusant. Je ne sais pas si c'est amusant.
Oui, mais enfin, c'est ça, vous accrochez à ça un petit
peu. J'ai trouvé ce mot un peu bizarre.
Ah, c'est le mot qui est bizarre, oui.
Et puis, on m'a expliqué que c'était, bon, bien sûr, c'est l'âme, la flamme de la bougie ou du briquet, et qui passe sur une... Sur une autre...
Sur une autre, oui, c'est une transmutation.
Voilà.
D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est beau.
Peut-être
ça.
De l'ordre du possible. Je ne sais rien.
C'est de l'ordre de l'erreur.
Voilà. D'accord. Mais j'en suis convaincu.
Ah non, mais ça, je sais. Mais évidemment, on n'est jamais tombé dans un truc pareil, quand même. Jamais. Enfin, ça ne t'a pas effleuré. Transmutation. Notre âme n'a pas de transmutation. La seule transmutation possible pour une âme, c'est l'union transformante.
C'est ça.
Ça va ? Donc, la grimace diabolique dans les énergies cosmiques et christiques, c'est la transmutation. Et on n'a même pas besoin d'avoir la foi pour le savoir, puisque déjà philosophiquement Aristote a prouvé, et personne n'a jamais pu faire tomber cette démonstration d'Aristote. Et Aristote était un vieux païen. Hein ? C'est pas un croyant, c'est un païen. Il a démontré que la transmutation est strictement impossible. Donc j'ai même pas besoin d'avoir la foi pour savoir que la réincarnation est une chose substantiellement impossible en philosophie première. C'est démonstratif puisque c'est par induction analogique. Donc l'induction analogique, on ne peut pas la renverser. Et il y en a qui ont essayé, hein, je peux vous le dire. Hein, depuis 2300 ans, qu'est-ce qu'il y en a qui ont essayé? Ils se sont cassés les dents, évidemment. Ils se sont ridiculisés. Prenez Hegel, par exemple. C'est le ridicule le plus terrible qui soit. La philosophie, c'est pas le gros bois. Hein. Le bois, il bouffe tout. Non, vous avez raison. Merci d'avoir posé la question. Merci. Parce que vous savez, hein, il y a forcément des objections, des trucs qui vont remonter à la tête, hein, c'est normal. Vous savez, on est bourré, bourré d'hérésie. Hein. On est bourré. Rempli, dévoré par les idéologies athées, les sept têtes du dragon rouge, les sept têtes de la panthère noire, les 14 éclatements de l'un. Oh, moi ça me plaît ça, de savoir que, voilà, les temps vont s'ouvrir. Et en plus, j'ai été conçu sur la terre de France. En plus! Oh, 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 que ça me plaît! Sur la terre de France! C'est vrai! C'est trop... Mais ça, c'est génial, non? En Europe! Ça brille ta veine! Marie-Madeleine, Saint-Jean. Sainte-Anne. Saint-Joachim. Saint-Joseph.
Il est conçu en France.
Vous êtes certain? Ok.
On peut partager?
Oui, elle a dit. Il n'a pas été conçu en France, je sais.
Ah oui, ça on peut le croire.
Vous savez où il a été conçu? On y reviendra. La conception de Saint-Joseph, vous savez? Il n'y a pas beaucoup qui l'ont vu, la conception de Saint-Joseph. C'est ma Mourine qui me l'a montré. 19, je me rappelle, c'était le 19 décembre. Ça. C'est pas ma Mourine. Si vous saviez. Et l'Immaculée Conception, vous savez où est-ce qu'elle a été conçue? Non? Bon, ben on va vous acheter un bouquin pour apprendre le dogme sur l'Immaculée Conception. On va se cotiser. Hein,
l'histoire du dogme.
Où est-ce que l'Immaculée Conception a été conçue?
Je te parle pas du dogme.
Bah, allez, où l'Immaculée Conception a-t-elle été conçue?
Conçue à Jérusalem, à la porte de la rencontre.
Ouais. Oui.
Comment non?
C'est ce que relatent les gens.
Ce que relate quoi?
L'évangile.
L'évangile, que c'était, elle a été conçue où ça? Dans la
porte. À la sortie, oui, à la porte du temple.
À la porte du temple, c'est pas que dans l'évangile.
C'est pas la porte du temple.
Enfin, oui, bon,
non.
Je synthétise.
Non, c'est pas la porte du temple. Non, c'est pas la porte du temple.
Montrez-moi le passage de l'évangile, s'il vous plaît, merci. Ça m'intéresse beaucoup.
À la porte de la rencontre, on m'appelle ça.
C'est pas l'autre.
À la porte de Salomon, peut-être, c'est ça?
De la rencontre.
À la porte de la rencontre?
Oui.
Oh.
Non? Ah, mais j'ai bien souvenir.
Il y a des peintres qui l'ont...
Ah, des peintres! Ah, voilà, des peintres. Les beaux-arts. La peinture.
Bon, alors, à coucher. Oui. Bon, alors, où?
Alors, puisque... Là, les peintres. Qu'est-ce que la peinture dit? Où est-ce qu'elle a été conçue? Immaculée Conception. Immaculée Conception.
Au Saint-Esprit.
Pas bien, mais c'est pas au Saint-Esprit, mais on entend bien, mais...
Elle a conçue. Dieu a pris dans Saint-Joseph ce qui avait de plus solide dans le mystère de mariage spirituel assumé à l'intérieur de l'agré, de l'ouverture de l'union hypostatique de Jésus sur la croix. Il a conçu l'Immaculée Conception.
Là.
C'est comme ça que le proclame le dogme du Saint-Père sur l'Immaculée Conception. Donc l'Immaculée Conception n'a pas d'autre lieu que celui de la blessure du cœur de Jésus sur la croix, assumé dans l'incré et redescendant par la cause finale accomplie jusqu'au 7e, 6e et 5e saut de l'Apocalypse, c'est-à-dire en France. Merci beaucoup. Parce que où est le grand roi, le grand saint, l'unique saint de l'ouverture des temps? Il n'est pas en France par hasard.
Si.
Ok. De toute façon, c'est pas la France. Vous voyez bien de quoi je parle quand je parle de la France. Je parle de la sainteté.
Oui, bien sûr.
À l'état pur. Au sommet de l'ouverture des temps. Et c'est ça. C'était le lieu. C'est le lieu récepteur. C'est le lieu récepteur de la cinquième demeure de la nature humaine tout entière. Et le lieu récepteur, c'est ça la sainteté du roi. On y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Ça va devenir limpide pour vous. Limpide.
Oui.
Vous aurez avant les autres. Parce que tout le monde le verra, ça, dans quelques semaines, dans quelques mois. Tout le monde. 7 milliards d'êtres humains. Mais nous, on pourra savoir devenir limpide avant. C'est ça le but. Avant. Il faut que ce soit avant. On doit anticiper, par anticipation, que par appropriation, par puissance.
C'est curieux parce que on était guère plus nombreux. Ça s'est passé, c'est la dernière apparition à Gérone de la Vierge Marie, on n'était pas. Il devait peut-être avoir 4 ou 5 personnes de plus. Et moi je n'ai pas vu, mais j'étais sur le petit oratoire, on disait toi. Il y a quelqu'un qui prend une photo, on voit partir la Vierge Marie, et juste avant de partir, elle dit à la femme mystique, elle dit, vous serez des planches de salut. Donc, on ne peut pas être des planches de salut pour l'après-ouverture du cinquième saut, si on n'a pas un minimum de formation. Je pense que c'est cette opportunité-là qui nous donne.
C'est vrai, on se prépare avant, on était choisi pour ça, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on a été choisi pour ça? Je peux vous le dire, Hélène, c'est très simple. Hein, c'est parce que Dieu se sert de la foi. Et nos premiers actes de foi sont dans les 40 premiers jours après la conception. Hein. Et ce oui, là, quelque part, il y a un oui. C'est le pape Jean-Paul II a expliqué que c'était très très lucide, conscient. Hein, dans la lumière, libre, substantiellement libre, on est à ce moment-là. Hein. Amour, hein, comme c'est pas permis. C'est vraiment l'unité avec la lumière amoureuse, paternelle, créatrice de Dieu dans tous les êtres humains, même angéliques. Et on est parfaitement lucide dans ce oui de ce que nous sommes en communion avec lui et avec la On a une manière à nous. L'Immaculée Conception a une manière à elle de vivre sa conception. Saint Joseph a une manière à lui. Ça n'a pas duré longtemps, je peux vous le dire. Mais c'était pas 40e jour après la conception. Pratiquement, presque immédiatement. Chacun a eu sa manière de s'arrêter devant la propagation du péché originel et de demander pardon aussi, pour quelques-uns, de demander pardon pour l'humanité tout entière. Et à ceux qui, à cet instant-là, ont demandé pardon pour l'humanité tout entière, J'ai bien dit, pour l'humanité tout entière, à ce moment-là, sont en affinité avec la grâce de l'ouverture des temps. C'est bon, moi je trouve ça merveilleux de savoir ça, ou de le comprendre, de le sentir, enfin, ou de le pressentir, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Parce que Dieu crée avec tout, avec nombre, poids et mesure. Et c'est en fonction de la communion des personnes qu'il le fait. Et la communion des personnes avec Dieu se fait par la lumière surnaturelle de la foi, déjà présente dans son accomplissement, dans notre vie, dans notre vie originelle. Parce que c'est ce qu'a expliqué le pape Jean-Paul II, dit quand Dieu nous crée dans le génome de l'homme, il nous donne ce oui, quand on est dans ce oui de la même arrière, alors à ce moment-là, à ce même instant, l'encyclique c'est Evangelium Vitae, Vité, où il dit ça, à ce même instant, il nous inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est cet état dans lequel on sera éternellement, dans notre accomplissement terminal. Et c'est de là qu'il nous recrée et qu'il nous donne la grâce de demander pardon surnaturellement dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et la manière à chacun d'avoir, pas tous, mais quelques-uns, d'avoir accédé à cette communion d'amour, de charité, terminale de la Jérusalem céleste accomplie de la fin des temps, dans notre oui originel, marque, parce que Dieu nous connaît avant que nous soyons formés dans le sein de la mère, il nous connaît, donc c'est en fonction de ça, bien sûr, qu'il nous établit, que nous sommes établis, pas lui, mais moi, et en communion, je veux dire, Dieu respecte infiniment, dans l'admiration, la petite créature. Le saint des saints de la paternité créatrice de Dieu, c'est extraordinaire. Si votre petit chien meurt, vous allez, je suis sûr, vous allez pleurer. Mais que il, mon papa, vous intéressez. Ah, ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas Dieu. Moi, j'adore autre chose. Dieu, je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Le signe que je l'aime pas, les gens pleurent pas de ça. Je voudrais bien pleurer. C'est pas que je ne veuille pas aussi. Ça ne me touche pas. Je pleure pas. Ma charité n'est pas touchée par ça. Est-ce que les larmes ont coulé? Est-ce qu'il y a eu du sang ou des larmes qui ont coulé à cause de sa danse? Oui ou non? Peut-être pour le saint, oui. Ah, pour le grand saint. Ah oui, le grand saint, oui. Ah, le grand saint, oui. Et il pleure à cause de ça. Il pleure. C'est le cœur qui saigne. Son cœur saigne. Il pleure de ça. Son papa, notre papa, le papa. Et il pleure de ça pour tous les hommes, pour la nature. Depuis très, très longtemps. Il existe, il est au milieu de nous, il est quelque part. Je ne sais pas où il est, en tout cas, ça n'a aucune espèce d'importance, mais je l'aime, moi, le grand saint, le plus grand saint d'ouverture des temps. Il n'y en a qu'un. Mmh. C'est marqué dans l'écriture. Il n'y en a qu'un. Mmh. Il n'y a pas 23 grands modèles. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est marqué dans l'écriture. Exactement de la même manière qu'il y a un seul Saint-Joseph. Un seul. Il était seul, Saint-Joseph. Seul. De la conception jusqu'à l'âge de 19 ans. Seul. Tout le mystère d'Israël, tout le mystère de la création, tout le mystère de la Jérusalem céleste future et accomplie était porté sur cet enfant de 4 ans, ainsi de 12 ans. Il était le seul, et il ne devait y en avoir qu'un. Et ça, c'est inscrit dans l'écriture, explicitement.
Pourquoi?
Et pour l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, il en est de même, parce que l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse appartient de droit à une grâce d'affinité semblable et analogue à celle de Saint-Joseph. Mais pour l'universalité des membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant et entier, cette fois-ci. Car tous doivent recevoir l'émanation d'Immaculée Conception. Tous. Dans la transformation éclatante du cinquième sceau de l'Apocalypse. Il faut bien qu'il y ait une source méritoire. Et il ne doit y en avoir qu'un. Nous aimons le roi. Nous avons de l'amour pour ce grand saint. Et on sait aussi comment nous pourrons le reconnaître. C'est l'humilité agréée de Dieu incarnée. Donc il s'ignore lui-même. Donc si vous voyez le grand monarque qui arrive sur un grand cheval avec une bannière, disant « Je suis le grand monarque », ah, vous êtes au courant que c'est vous? Oui. Bon, alors, tournez-vous, s'il vous plaît. Hein? Et hop, vous donnez un grand coup de pied dans les fesses. Hein? Puis retournez-vous une deuxième fois, un grand coup de poing dans la figure. S'il vous voit, c'est ça. Hein? Coup de pied dans les fesses, un grand coup de poing dans la gueule. Ça, c'est évident. Comme ça, il ne viendra plus embêter les gens. Disant « Je suis le grand monarque. » J'en ai eu 23 comme ça. Hein? 23, à moi tout seul. Vous vous rendez compte? Alors, on est 1 million de prêtres. Il y en a 23 millions qui se prennent pour le grand monarque, il ne faut pas être taré, non? Il n'y en a que. J'en ai marre. De la bêtise substantielle des catholiques d'aujourd'hui. C'est une bêtise substantielle, impardonnable, à vomir.
Il y a eu un développement récent à ce
congrès. Ah, il y a un développement.
Oui, j'ai vécu il n'y a pas longtemps.
Ah, alors si vous l'avez vécu, frère.
C'est la première fois que je me suis entendu dire on ne veut plus être informé. On ne veut plus être informé. On ne veut plus rien savoir, ça nous dérange, ça nous perturbe. Je l'ai entendu dire. Hein. Je dis, mais c'est une affirmation qui vient de part. On ne veut plus savoir. Et ça prend forme dans les milieux où on pratique avec une obsession, c'est presque, c'est plus obsessionnel, c'est peut-être plus quelque chose de plus fort, où on veut la communion sur la main. C'est affreux. Ça devient affreux. Je connais des personnes qui sont convertis, ont communié sur la bouche, ont fréquenté des courants spirituels que je réprouve absolument et qui se sont mis à communier sur la main. Récemment, là, il y a un mois, Je dis, mais tu te rends compte, regarde, c'est... je veux plus rien savoir, ne me dis plus rien, ça me perturbe. Je veux plus... Mais si c'est le pas, je m'en fous, je veux pas savoir. J'avais jamais vu ça, j'étais scié, et c'est pas le premier cas. Et ça se. C'est
alors, je vais vous raconter une petite anecdote.
C'est terrible, hein?
Pierre, je vais vous raconter une petite anecdote. Et c'est un beau, là. Pour le peintre, le Beaux-Arts, c'est beau. Elle a fait le Beaux-Arts aussi, c'est l'original. Donc, elle voit ça, et Jésus lui dit, vous, tu me peintes comme tu m'as vu. Elle peint ça. Voilà, c'est ça. Donc, un jour, cette petite, Jésus, elle est dans une chambre qui est assez petite. Et il y avait le tableau, donc Jésus a pris, puis il y a, comme ça, non, elle ne prie même pas. C'est comme ça. Jésus sort du tableau. Et il se retrouve avec elle, comme ça, elle est un peu hein, mystico. Elle n'est pas parfaite, hein, pas du tout, hein, c'est vraiment une mystico. Enfin, Jésus lui parle, il sort du tableau, il lui parle. Vous voyez l'hostie qui est là. Et elle dit, l'hostie est devenue assez grande comme ça. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas compris, il m'a dit, regarde. Et il l'a mis comme ça sur son épaule, comme ça, là, comme ça. Et puis il est reparti dans le tableau. Il s'est retourné, il a dit, à propos de la communion sur la main, hein, parce qu'elle se posait la question, la communion sur la main. Hein, il est reparti dans le tableau, il dit, cette croix-là, je vais la porter jusqu'à la fin du monde. Et il est revenu dans ce tableau. Je trouve ça trop joli. C'est beau, ça s'invente pas, tu vois. Ça s'invente pas. Mais je dis pas que c'est vrai, c'est mon fils, ça n'est pas docteur de l'église, et c'est une mystico dingo, c'est tout, ça. C'est vrai. C'est pas grave. Mais. J'allais dire, si je pouvais inventer cette histoire, je l'inventerais pour, pour dire, comme nous sommes à la main, bon. Jésus, il prend ça, c'est sa croix, c'est un méchôme. Ah, donc c'est jusqu'à la fin du monde. C'est jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur va porter ça gentiment, très content d'ailleurs. Et il porte ça jusqu'à la fin du monde, très content, comprenez bien ce que je veux dire. Il me dit, c'est ça, c'est la volonté éternelle du Père que notre humanité porte jusqu'à la fin du monde le méchôme. C'est ça qu'on va découvrir à l'ouverture du cinquième psaume. Il va falloir qu'on porte le méchôme jusqu'à la fin du monde. Et on ne devra pas être une seule seconde en dehors de la cinquième, sixième, septième demeure. Ah, une seule seconde, ni le sommeil, ni la nuit, ni le jour. Pour être le récepteur de l'amour paternel incréable de Dieu, qui relativise l'opacité invincible du méchant, qui sera jusqu'à la fin du monde. Deux fois dans l'évangile marqué ça. Deux fois. C'est Jésus qui explique ça. Jusqu'à la fin du monde. Le méchant. C'est-à-dire la désolation métaphysique engendrée par ça. On l'aura, vous inquiétez pas. Le méchant ne va pas disparaître après le cinquième épisode de l'Apocalypse. Au contraire. Alors il va falloir ce que c'est, comprendre, saisir. Il ne faut pas se laisser surprendre. Il faut se laisser prendre par Dieu. Dans la sainteté des derniers temps, c'est pas une sainteté extraordinaire, c'est la sainteté de l'innocence triomphante. De l'innocence crucifiée. On va les voir de toute façon, ces enfants resplendissant comme ça avec nous dans le cœur. Et la charité surnaturelle, absolument accomplie, parfaite, surabondant et assumée du grand saint, du royaume, du nouvel Israël, au milieu des multitudes. Et on va les suivre avec lui. Et on va voir que c'est extrêmement simple de vivre de l'innocence crucifiée, triomphante, divine de Jésus, dans la nature humaine tout entière avec eux, et comme eux. Ce ne sera pas du tout compliqué et très agréable. C'est très chouette, vous savez. Suivre le Christ quand on est une espèce de larve toute. Hein, Je sais pas, mais ça m'a toujours un peu écœuré, cette espèce de barbe. On sait même pas ce que c'est là. Cassir ses verres, il y a des poils. Là. On touche, on se demande, c'est pas si. Ça, on fait quand même de la petite soie, c'est vrai. On fait de la soie. Très bien. Mais quand c'est une colombe, c'est quand même plus agréable. C'est doux la soie. C'est doux, c'est blanc, c'est agréable. Mais la colombe. La colombe, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Donc on va célébrer l'offertoire, sinon on ne prendra jamais le petit déjeuner. Mais d'abord, le déjeuner substantiel. Hein? D'abord, le déjeuner substantiel. Notre déjeuner substantiel, nous nous offrons nous-mêmes pour retirer le oui que nous avons dit. 9 mois avant la naissance, qui a duré bien des jours et des jours. Sinon, nous ne serions pas ici à la date d'aujourd'hui. Et nous n'aurions pas né à notre époque. On va se réconcilier avec nous-mêmes. Et avec la volonté éternelle du Père. Pour être la maman immaculée, répandue dans la nature humaine tout entière pour tous les hommes d'aujourd'hui. Pour être l'engendre éternel dans la signification responsable d'un corps féminin, à la sœur, ou masculin, à frère. Et c'est tout un 3 en un en 3. Voilà ce que Jésus a expliqué. À ceux qui étaient autour de lui, il a bien regardé attentivement. Il voulait savoir qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère. C'est comme si j'y étais, c'est marrant. Il a montré où sa mère, dehors. C'est celui qui fait la volonté éternelle de mon père. C'est extraordinaire, ils sont trois, il dit c'est celui qui, dans l'un ou dans l'un, fait la volonté éternelle de mon père. Cette rencontre de l'union hypostatique des cieux de Jésus, de la transverbération, pour aspirer au-delà du royaume de la résurrection, dans l'aspiration agréée du paraclet. Ça, c'est voilà, ce que je viens de dire à l'instant, voilà, c'est rassuré. C'est les mots qui font toute notre vie, dans notre vocation sur la terre, notre vie intérieure, consciente. Nous avons vu, nous avons entendu, dans le silence, du corps du verre, nous avons vu, nous avons entendu, dans le silence de l'agneau immolé, son chant nouveau. Avec des myriades d'anges, des myriades d'innocents, chantant la gloire du Père, du Saint-Esprit, avec des myriades d'anges, des myriades d'innocents, chantant la joie du Père.
Seigneur de l'univers, toi qui me donnes ce peuple, ta taille, le travail, le sang. Te le présentons. Il deviendra le pas de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous avons fait. Nous avons entendu dans le silence. Du verbe au vers des cirés en chant nouveau, avec de milliards d'anges, de milliards de milliards d'innocents, chantant la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous avons fait. Nous avons entendu. Avec des milliards d'innocents, j'entends la gloire du Fils, du Saint-Esprit. Prions ensemble, à maman offrir un sacrifice de toute la vie pour la gloire de Dieu. Et le salut du monde.